Bienvenue à la série Le Monde Change, une série d'interviews, de reportages, de rencontres et de découvertes avec des gens d'ici et des proches qui nous témoignent des réalités d'ici et maintenant. Cette série est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Avoir son jardin est devenu un must avec la pandémie. Profitez des bienfaits du jardinage, ce qui aide à réduire le stress, faire le vide et être dans le moment présent, sans compter les bons légumes qui viennent avec la récolte et l'économie d'argent possible. Mais avoir une entreprise maraîchère éco-responsable et biologique est une autre paire de manches. La ferme maraîchère Les Champs Marins, située sur le chemin du Bois Brûlé à l'étang du Nord, célèbre ses 10 ans. J'ai rencontré les propriétaires Roberto Chevary et Anne-Sophie Devanne.
Moi, je viens de la Poitou. J'ai tout le temps été intéressé à le jardinage. Ma mère faisait beaucoup de jardinage et tout ça. Puis, il y a des périodes mortes où il n'y avait pas beaucoup d'ouvrages. Je me rappelle, je faisais des jardins avec un plan et tout ça. Puis, ça fonctionnait, mais à la Poitou, c'est quand même rough faire un jardin. On est sur le bord de l'eau, puis ça peut se faire laver d'un bout à l'autre à l'eau salée. Pas vraiment l'idéal. C'est qu'un endroit où est-ce que c'est que tu es entouré par les arbres et tout ça, comme qu'on est là maintenant, protégé, et ce que à peu près tout pousse, c'était une affaire de rêve. Tu sais, faire pousser des arbres, des pommiers, des affaires de même, chez nous, c'était carrément impossible. Là. D'avoir plus venu sur l'île centrale, on va dire c'était plus grand, parce qu'on a commencé avec des terrains prêtés, un à Fatima et un à l'étang du Nord, puis un gros cap. C'est Louis-Philippe à Léo Leblanc qui nous l'avait prêté, puis mon cousin pour l'autre, Ghislain Duclos. Puis on mettait le cœur à l'ouvrage, puis c'était difficile parce qu'on n'avait pas de serre, et puis ça faisait une rotation sur trois terrains à 5-6 km chaque avec des tracteurs et des outils et tout ça. Puis c'était pas facile, mais on a dit, si on essaye ça, il faut aller jusqu'au bout, puis s'il faut le faire 7 jours par semaine, on va le faire, puis on le fait encore. Ça a porté fruit, hein. Les gens ont commencé à nous connaître, puis à venir acheter nos produits. Je me rappelle, à Capromel, sur le bord du chemin, on n'avait presque rien. Laver des légumes avec 300 pieds de hausse à côté d'une vanne dehors au soleil, puis on réussissait à faire de quoi de pas pire, puis les vendre, puis le monde était content, puis revenait. Ce qu'il faut, c'est pas lâcher, même si c'est pas facile tout le temps.
Pour moi, la naissance de l'entreprise des Champs Marins, c'est la rencontre entre Roberto et moi, en 2012. Tout s'est enchaîné de façon plutôt improvisée, en fait, on savait pas nécessairement où on allait. On a vraiment, à chaque étape de notre entreprise, on a fait des améliorations, on a grossi, on a rendu les choses plus confortables, on travaille dans des meilleures conditions, mais c'était jamais avant le besoin. C'était toujours parce qu'on avait passé un ou deux ans à vraiment voir que ce serait bien d'avoir un plus grand véhicule de livraison, d'avoir une plus grande serre. Fait que à chaque fois,
on s'adaptait
s'adaptait et on arrivait de fil en aiguille et patiemment, finalement.
Et chacun, vous aviez des travaux, des professions mm-hmm. différentes de oui. l'agriculture maraîchère.
Oui, oui, tout à fait. Ma formation, elle est en France. J'avais une formation en horticulture. J'ai fait un doctorat en sciences de l'environnement. Et c'est ce qui m'a amenée au Québec, à l'Université du Québec à Rimouski, pour un post-doctorat. Donc, j'étais assistante de recherche, où je suis venue aux Îles-de-la-Madeleine pour un contrat de recherche.
Et pour toi, Roberto, tu me disais que tous les métiers ou les études que tu as faites te servent toujours.
Tout le temps. Ben, c'est sûr que j'ai travaillé dans d'autres domaines, c'est certain, pour gagner ma croûte. Un de mes premiers métiers, c'est que je construisais des bateaux de pêche. J'ai fait la pêche aussi pendant 9 ans, la pêche au mort. Et puis, il fallait toujours que je me trouve quelque chose à faire ou à apprendre. Le premier cours que j'ai fini quand j'ai fini le secondaire, c'était en construction. Après ça, une autre période creuse, j'ai été en technique d'usinage des métaux. C'est machiné, ce qu'on appelle. Après ça, encore une autre période creuse plus tard, j'ai dit, je vais aller apprendre d'autres choses. Électromécanique, système automatisé, j'ai dit, pourquoi pas. Toutes des choses que j'aimais. Avec ce qu'on fait aujourd'hui, je peux réparer tracteur, faire de l'électricité. Il n'y a pas grand-chose qui me bloque vraiment, là. J'adore fabriquer, créer des choses, modifier des machines, des affaires de même. Puis après ça, de voir le résultat que ça marche, puis ça nous aide, puis ça nous a pas coûté cher.
L'entreprise agricole, les Champs Marins, a grossi lentement, mais sûrement. Les gens y ont cru.
Heureusement, il y a eu plus de gens qui y ont cru que de gens qui y ont pas cru. Il y en a quelques-uns qui croyaient qu'on passerait jamais à travers de tout ça, puis on réussirait jamais. Mais la majorité des gens nous faisaient confiance, puis nous voyaient aller, puis disaient, si vous continuez, vous allez réussir.
Les gens y ont tellement cru que même certains d'entre eux sont allés vous aider dans les champs et continuent d'y aller année après année.
Tous ceux qui ont un petit 2 heures à faire un avant-midi, puis pour changer les idées. Puis des fois, c'est pas grand-chose. Ça peut être du désherbage, ça peut être préparer quelques légumes pour les nettoyer. Tout ça, ça compte.
Il y a une belle communauté, je trouve, depuis 2-3 ans, de personnes qui, des îles, qui reviennent régulièrement, saison après saison, nous donner un coup de main. Une matinée par-ci, une après-midi par-là. Puis de revoir ces personnes-là, je trouve que ça commence à ressembler à quelque chose de plus communautaire ou collectif à travers ça, dans les coups de main qui nous sont offerts. On peut pas donner grand chose en retour, mais on donne des légumes, c'est ce qu'on a.
On prête même des vertus thérapeutiques au jardinage.
Ça fait du bien, travailler la terre, ça fait du bien d'être dehors, puis ça fait du bien, à travers ça, de faire quelque chose, je pense, qui a du sens. C'est vrai pour nous aussi.
C'est vrai pour nous aussi. Puis, je me faisais la réflexion cette semaine, on gagne pas beaucoup d'argent, mais on réussit à arriver pareil. Mais quand tu te lèves le matin, puis tu vois les rayonnements du soleil, t'entends le vent dans les branches, les oiseaux, tu vois le résultat de ce que t'as mis en terre, il y a comme une fierté là-dedans, puis c'est un milieu en plein air. Puis là, cette année, on essaye des abeilles parce que ça va favoriser notre pollinisation. Deux ruches cette année, ils sont déjà là.
Moi, j'ai l'impression qu'on vit au rythme de la nature, à la journée et à l'année. C'est-à-dire que chaque printemps, les premiers semis, c'est un renouveau. Chaque année, pareil, chaque année, j'ai la même appréhension devant mes petits plateaux de poireaux parce que c'est le premier truc qui est semé. Puis, aussitôt qu'ils germent, je me dis, OK, c'est beau, c'est parti. Puis là, ça roule, puis ils suivent les poivrons, puis les tomates, puis les oignons. Et je trouve que ça nous rapproche du rythme naturel, de dire, OK, au printemps, tout le monde se réveille.
Pour toi qui es française, oui, qui a vécu dans un autre climat.
Moi, je viens de l'ouest de la France, du Poitou des Deux-Sèvres, en fait, pour être plus précise. Ça fait que c'est pas très, très loin de l'océan Atlantique, c'est au centre de la France. Puis souvent, on se fait la réflexion, quand je parle avec mon père, à part l'hiver, on a quasiment le même climat. Les mêmes températures, sécheresse et puis désordre climatique mis à part. Jusqu'à tard l'automne, on a presque les mêmes températures. Même souvent, quand il y a un coup de vent, on l'a. Enfin, c'est très similaire. Quand même, malgré tout, différent. Mon père n'a pas les tempêtes qu'on peut avoir aux îles. Mais les températures sont proches. C'est sûr qu'après, rendu fin novembre, début décembre...
Ça coupe direct.
Pendant 4 mois, on se sépare. 4-5 mois. C'est comment? Moi, je trouve, pour avoir vécu à Rimouski, je trouve que c'est moins rude aux îles qu'à Rimouski. Rimouski, c'est beau, mais c'est frais. Je trouve qu'on a une saison qui démarre tard, mais qui est tellement longue à l'automne. Ça change la donne par rapport au sud du Québec, très certainement. Ça donne une grande fenêtre sur les légumes d'automne, justement sur ce qu'on peut produire tard en saison. Tu sais, des premiers gels, parfois... Guerre avant début novembre, c'est précieux. Là. C'est quand même une longue saison par rapport au bas du fleuve, par exemple, ou aux alentours de Rimouski. Oui, pas avant début mai, mais on peut être jusqu'au mois d'octobre, fin octobre dans les champs.
On a ramassé des légumes mais
en janvier.
En janvier, des carottes, une période de dégel qu'il y a eu, puis ils étaient parfaits.
Après, la terre, finalement, n'importe quelle terre. Si on lui donne ce qu'il faut, on peut l'amender et la rendre fertile. Nous, on le voit avec notre friche, c'est pas rapide, ça peut prendre des années, mais je pense qu'avec du soin, avec ce qu'il faut, là, les bons amendements, presque n'importe quelle terre, à condition d'avoir quand même un peu de sol au-dessus de la roche, doit pouvoir produire des légumes.
Un grand ami, Leonard Clark, m'avait dit, il n'y a pas de mauvaise terre, il faut juste l'amender et la travailler en conséquence de ce que tu veux faire pousser dedans.
C'est tout de même exigeant, ce travail de maraîcher, en plus qu'il y a des intempéries qui peuvent causer des dommages importants.
Fiona nous en a donné une claque cette année. Premier regard, OK, le plastique était déchiré, mais ça m'a pris un mois et demi de réparer toute la structure qui avait brassé avec de l'aide. Une personne qui m'aidait à plein temps quasiment, une chance. Puis de remettre ça en état, de renforcer toutes sortes de choses que j'en ai rajoutées. Et des boulons, j'ai dit la prochaine, il va falloir que ça souffle fort, celle-là.
Ouais. Le découragement, il n'est jamais très loin, mais que les gens nous donnent en retour, c'est tellement précieux. C'est tabou être fatigué, mais quand tu as cette reconnaissance, ces remerciements, je suis même pas sûre que vous vous rendiez compte à quel point ça nous nourrit. C'est ça qui donne le sens à ce qu'on fait.
C'est tout de même un travail qui est fort exigeant pour le corps.
Moi, quand j'ai commencé, je pouvais vraiment plus taper à l'ordinateur. Puis, dès la première année dans les champs, ces douleurs-là, bien sûr, ont diminué, mais malgré tout, j'ai eu tellement d'autres douleurs, le bas du dos, les tendinites dans les mains. J'ai vraiment eu, peut-être pendant 2 ou 3 ans, je me demandais si j'allais pouvoir le faire ou le continuer physiquement. Du travail penché, puis tu te relèves juste pas là, parce que puis après tu comprends qu'il faut respirer profondément, puis qu'il faut y aller doucement, puis que ça aide à se relever, que c'est beaucoup une question d'oxygène et de respiration, puis que tu sais quoi faire pour aider ton corps. J'ai l'impression que plus ça va, bah certainement parce qu'on s'y habitue, mais moi j'ai encore mal au dos, c'est sûr, mais c'est normal là, mais vraiment non, physiquement bah je pense que je me suis musclée. Ça va plutôt assez bien.
Il y a des blessures, j'en ai. Ça coince des fois, mais écoute, j'ai même eu recours à de l'ostéopathie, puis une chance, parce que je me suis tordu une coupe d'affaires et ça a fait que je peux continuer. Je devrais peut-être pas faire ce que je fais, mais j'aime trop ça pour arrêter.
On parle beaucoup d'autosuffisance ces temps-ci. Est-ce que ça fait partie de votre idéal?
Oui, en filigrane, certainement, mais malgré tout, on est trop petit par rapport aux besoins. Je veux dire, on est quand même très, très loin aux îles de même frôler l'idée de l'autosuffisance agricole.
C'est que nous-mêmes, on ne pourrait pas fournir à tout ce qu'il y aurait de besoin aux îles.
Toutes les entreprises maraîchères.
Oui, peut-être. Mais moi, ce que je note, c'est qu'aux îles de la Madeleine, depuis plusieurs années, le portrait change de ce qui se fait qui n'aurait jamais pensé, oser faire avant, d'essayer des trucs nouveaux, puis d'avoir le courage de l'essayer, puis de continuer. Puis il y en a beaucoup d'entreprises que je salue, mais ça prend du courage pour essayer des affaires différentes. Ça n'a jamais fait ici d'ailleurs, et risqué. Je vois plus de succès que d'échecs quand même.
Oui, plus indépendant de ce qui rentre de l'extérieur. On est juste un pion là-dedans. C'est sûr qu'on en fait partie aussi.
Est-ce que vous êtes accompagné d'un agronome?
De plusieurs.
Robert Robitaille, ici au MAPAC, nous a toujours donné un service formidable.
On a un suivi pour le projet des arbres fruitiers. Ça, c'est vraiment un projet assez spécifique qui est fait avec la Gaspésie, le club des producteurs fruitiers, je pense de la Gaspésie, qui nous ont ouvert leurs portes. Donc, on les a rejoints. Il y a eu 2-3 hivers de formation en ligne. Puis, il y a une agronome qui a lancé un projet l'an dernier de suivi phytosanitaire des arbres fruitiers. Fait que l'idée, c'est vraiment de faire un portrait en Gaspésie et aux îles des maladies, des insectes, des ravageurs. Puis plus largement, de mieux comprendre finalement la biologie des arbres fruitiers dans nos régions. Là, quand est-ce que telle variété fleurit, de mieux cibler ça. Fait que ça, c'est un projet qui a commencé l'an dernier puis qui va continuer sur les 2 prochaines.
En agriculture, on n'oublie jamais le fameux pH, l'acidité du sol.
Oui.
Ben, il est très important, mais ça dépend qu'est-ce que tu fais pousser. Mon oncle Fred qui a fait pousser des patates dans la dune, il avait un pH d'à peu près 4. Et les patates, ils aiment le pH acide, c'est-à-dire bas. Sûrement mis quelque chose d'autre avec pour les aider. Ils ne développera pas autant de maladies s'ils sont dans ce conditionnement-là que s'ils sont dans la même terre que tu fais pousser des brocolis.
Aux îles, on a des pH acides en général, donc des pH bas. Fait que généralement, le problème, c'est monter le pH, alcaliniser le sol, le rendre plus alcalin. Puis,
la fameuse chaux.
La fameuse chaux ou ses alternatives. On a défriché notre terrain qui était à un pH de 4. Au même moment, il y a eu un projet expérimental avec le MAPAC, le CERMIM à l'époque, pour tester l'effet des coquilles de palourdes concassées sur le pH des sols. On a mis un tiers de chaux au début, parce que le projet n'était pas encore en marche, puis les 2 autres tiers ont été remplacés par des coquilles concassées.
Ça a été une réussite?
Oui.
Oui,
vraiment.
Ça a été rapide, puis ouais. Ça fait encore son effet, ça continue de monter parce que les résidus de coquilles, même s'ils n'ont pas été cassés aussi finement parce qu'ils n'avaient pas la machinerie pour le faire dans le temps, pour faire la quantité qu'il fallait petit et fin, il fallait en mettre une grande, grande quantité pour atteindre ça parce que c'était du 0 à 3 quarts de pouce de grosseur de coquille à peu près là. Puis les gros morceaux, au fur et à mesure qu'on passe dedans, continuent de se brasser puis se briser, de remettre des petites fines particules qui continuent de travailler.
Ça a été fait en 2015. Depuis 2019, il est vraiment optimal. Il est autour de 7. On ne sait pas vraiment encore s'il va encore monter. Il ne faudrait pas qu'il continue à monter trop, parce que le problème inverse peut se poser aussi.
Ouais.
On dit souvent que les analyses de sol, c'est aux 5 ans. Un sol, ça ne bouge pas tant que ça au niveau des éléments principaux, là. Mais nous, c'est vrai qu'on le fait tous les ans pour suivre cette évolution-là.
C'est l'heure de la pause et vous avez choisi de nous partager une chanson d'un auteur, compositeur, interprète canadien.
Je n'ai pas encore tombé sur une chanson qui représentait autant ce qu'on fait comme cette chanson-là par rapport à la dureté du travail, le risque de se relever tout le temps pour recommencer sans jamais savoir si à la fin de l'année tu vas réussir alors que d'autres abandonnent. Puis ça raconte tout ça, ça raconte la vie de gens qui ont travaillé puis qui persévèrent malgré la difficulté. Watch the field behind the plow, Stan Rogers.
Watch the field behind the plow turn to straight dark roads. Feel the trickle in your clothes. Blow the dust cake from your nose. Hear the tractor's steady roar. Oh, you can't stop now. There's a quarter section more or less to go. And it figures that the rain keeps its own sweet time. You can watch it come for miles, but you guess you've got a while. So ease the throttle out of air. Every rod's a gain, and there's victory in every quarter mile. Poor old Cousin down the road, the heartache, hail and hoppers brought him down. He gave it up and went to town. And Emmett Pierce the other day took a heart attack and died at 42. You could see it coming on, 'cause he worked as hard as you. In an hour, maybe more, you'll be wet clear through. The air is cooler now. Pull your hat brim further down and watch the field behind the plow. Turn to straight dark roads. Put another season's promise in the ground. Any good, the money just might cover all the loans. You've mortgaged all you own. Buy the kids a winter coat. Take the wife back east for Christmas if you can. All summer she hangs on when you're so tied to the land. Times come and go, but at least there's rain, so this won't be barren ground when September rolls around. So watch the field behind the plow turn to straight dark roads. Put another season's promise in the ground. Watch the field behind the plow turn to straight dark roads. Put another season's promise in the ground.
Vous êtes toujours à la série Le Monde change avec Anne-Sophie Devanne et Roberto Chevary. On dit bonhomme mal an environ 4000 livres de carottes, 1000 livres de tomates, 2000 livres de patates, autour de 1500 livres d'oignons, 2000 livres de laitue et bien d'autres bons légumes qu'on peut retrouver chez vous. Et des clients, vous en avez. On parle de paniers biologiques hebdomadaires que vous fournissez à environ 125 clients et s'ajoute à cela environ une trentaine de clients réguliers qui passent par la boutique en ligne.
On vient là de finir notre campagne de recrutement de panier, mais c'est toujours assez réconfortant, je dirais, parce qu'il y a généralement 90 à 95% des clients qui se réinscrivent. On a besoin d'aller chercher une quinzaine, 20 personnes par année, selon si on décide aussi d'augmenter le nombre de paniers. On ne fait pas partie du réseau des fermiers de famille parce qu'on a une flexibilité qui n'est pas offerte par le réseau, où tu t'inscris par un site internet, où tu n'as pas de contact nécessairement direct avec ton maraîcher, une gestion avec un intermédiaire, là, finalement. Ça fait qu'on fait partie de la CAP, qui est la coopérative d'agriculture de proximité écologique.
Vous cultivez une bonne variété de légumes, et il y en a parmi eux qui sont moins faciles que d'autres.
Nos productions sont assez stables depuis quelques années. Ce que j'aime le moins, c'est certainement ceux de la famille des choux ou brocolis, parce que c'est beaucoup d'entretien, c'est souvent assez décevant, c'est assez exigeant à la fois en termes de fertilisation, en termes d'insectes. Il y a quand même beaucoup de chenilles qui aiment beaucoup les choux.
Chou-fleur d'ailleurs qu'on produit plus.
C'est ça, il y en a qu'on arrête, on diminue. En fait, année après année, on en enlève parce que c'est pas satisfaisant.
Et dès le départ, vous, il était important d'avoir une culture biologique.
Je ne veux pas dénigrer ceux qui ne sont pas certifiés. Surtout parce que nous, on a commencé à produire des légumes puis on les vendait, on n'était pas certifiés. Par exemple, on avait le souci de ne pas beurrer ça, des produits qui pouvaient être toxiques. Là. On n'en mettait pas. Mais on avait choisi de ne pas le faire, même si ça nous aurait peut-être facilité la tâche des fois. On avait comme vision de ne pas faire ça.
Oui, c'est du travail, mais en fait, au début, on n'était pas certifiés. Puis on pouvait en fait pas l'être, on cultivait sur des terrains dont on ne connaissait absolument pas la perspective de temps. C'est pas une entreprise que tu certifies, c'est une terre, c'est la façon dont tu cultives. Mm-hmm. Fait que on a défriché notre terrain, on a pu le certifier très rapidement parce qu'il n'avait pas été cultivé, fait qu'il n'y a pas eu de pré-certification. Mais on a réalisé dès le premier audit qu'on n'avait rien changé du tout à nos pratiques. On n'a rien eu à changer puisqu'on cultivait biologique. Mm. Fait que c'est accepter des pertes de rendement, c'est sûr. En fait, moi, je ne conçois pas d'autres façons de faire. C'est difficile, mais comme dit Roberto, mettre un produit... Nocif. Même les insecticides autorisés, on n'en utilise quasiment aucun, même s'ils sont certifiés bio.
Mais moi, je n'ai jamais accepté d'en mettre. Pour moi, il n'y a pas de compromis là-dedans.
On préfère utiliser des filets. On préfère séparer le légume de l'insecte plutôt qu'aller tuer l'insecte sur...
Et laisser la place aux oiseaux, à la nature.
On a fait un test l'an dernier qui était assez rigolo. Année après année, en fin de saison, on couvrait donc nos choux de filets. Il n'y a pas un papillon qui ne va pas pondre dessus sinon. Mais en fin de saison, c'était toujours, toujours détestable parce qu'il y avait des grosses chenilles, des chenilles de papillons de nuit, là, des noctuelles, mais qui font la taille de mon petit doigt, en tout cas, facilement.
J'en ai jamais vu autant.
Et l'an passé, ce qu'il y a eu de différent, c'est que, je ne sais plus pour quelle raison, on a enlevé les filets beaucoup plus tôt, puis on les a pas remis. Les oiseaux sont venus manger les chenilles, en fait.
C'est des travailleurs jour et nuit qui nous enlèvent une partie de la tâche.
On découvre en fait chaque année, il y a la théorie, là, il y a ce que certainement tu pourrais lire dans les livres, et il y a aussi la pratique de voir finalement comment mieux vivre d'un possible équilibre.
C'est de l'expérimentation, puis des fois on se trompe, puis des fois ça marche, puis on se corrige, on s'adapte.
Quelle est la dimension du terrain que vous cultivez?
La ferme fait 6 hectares, la partie ouverte en fait 3. C'est la partie qui n'est pas en forêt. Il y a une partie plus boisée.
Pour l'abri des vents, tout ça.
Ouais. Puis tout le tour, finalement, cette ferme, elle est délimitée par la forêt. Fait que c'est ça, c'est 3 hectares à peu près. Mais là-dedans, t'as les serres, t'as les espaces de circulation, il y a l'étang. Oui. Mais les légumes occupent 1,5 hectare. Moitié cultivée en légumes, moitié en engrais vert.
Et ce sont des terres de la couronne.
On a commencé à défricher avec une promesse verbale d'achat, laquelle était favorable à la municipalité, et que le ministère est revenu sur cette décision. On s'est dit, OK, on va vivre avec. Mais quelques années plus tard, en 2020, la municipalité nous dit, c'est beau, vous allez pouvoir l'acheter. Ils nous font une offre de vente. Ça part dans les rouages, et donc ça doit être validé par le ministère. Sachant ça, en disant, c'est bon, on peut l'acheter. On se lance dans notre projet de bâtisse, de grange et tout. Puis un an après, on apprend que le ministère a refusé la vente. Il y a tellement des raisons qui varient. J'ai l'impression qu'à chaque nouvelle question, c'est une nouvelle raison qui nous est donnée. C'est décevant parce que je suis pas sûre qu'on se serait lancé là-dedans.
C'est une sécurité qu'on n'a pas, et on n'est pas chez nous.
C'est un bris de confiance.
C'est des infrastructures, c'est des milliers d'heures de travail, c'est de l'irrigation souterraine à la grandeur, c'est un bassin de rétention d'eau qui fonctionne très bien avec la neige qu'ils font, 1500 mètres cubes d'eau tous les ans.
Alors, cette dernière communication que vous avez eue par le ministère via la municipalité, elle date de...
2021.
Alors, est-ce que vous avez espoir que les choses changent? Est-ce qu'il y a d'autres cours pour vous? Est-ce qu'il y a d'autres demandes que vous pouvez effectuer?
Ben, on les a faites, en fait.
On se demande si consulter un avocat serait pas sérieusement...
On les a faites, on est allé voir le député, ça n'a pas été probant. Et puis là, l'UPA régionale s'est mise sur l'affaire, mais pour ça, il faut qu'elle mobilise certain nombre d'acteurs, d'intervenants. C'est un métier qui rapporte pas beaucoup, puisqu'on faisait à travers ce terrain, c'était un petit peu peut-être capitalisé pour avoir quelque chose au bout. Pas pour se devenir riche sur le dos de la couronne, de la terre publique, mais juste pour pas se retrouver à la rue à la fin de notre activité.
Est-ce que vous avez en contrepartie un bail de longue durée?
On a un bail d'un an renouvelable chaque année. Le bail est assujetti à une activité agricole.
Malgré tous ces défis, Anne-Sophie Devanne et Roberto Chevary, en terminant, comment vous vous projetez dans l'avenir?
Ça fait 10 ans là, que la ferme existe, ça fait 10 ans que
malgré
ce métier.
Malgré tout, on aime ça assez pour vouloir continuer.
Oui, puis je pense qu'on a franchi pas mal d'obstacles. La demande est là.
Les compliments des gens, les sourires, les messages en texto, sur des courriels, écrire un livre, c'est encourageant.
C'est encourageant, puis finir de construire la grange, c'est comme la partie matérielle de ce défi-là, mais ça fait quand même plusieurs années qu'on se le formule et que notre défi, c'est de réussir à trouver un équilibre entre ce qu'on donne à notre travail puis ce qui nous reste à côté.
Je dirais que de faire le tour de nos jardins, d'aller voir ce qui se passe dans les pommiers, si ça pousse, tout ça, ça révèle la nature et t'en apprends tout le temps.
Une partie du bonheur, c'est les rencontres qu'on fait l'été avec les gens qui viennent travailler chez nous, les voyageurs, notamment les woofers qu'on héberge. Et puis, mon grand bonheur à travers tout ça, c'est mon rapport à la nature au quotidien. Et de faire le tour des champs, puis d'être attaqué par 2000 moustiques, et tout d'un coup voir une libellule arriver à notre secours et voler autour de nous. Puis,
et faire le ménage.
Et faire le ménage, puis d'entendre les oiseaux, d'être connecté à cette terre, de vivre simplement à travers tout ça. Moi, ça me rend heureuse.
De voir notre chien et nos 4 chats qui nous suivent partout.
Qu'est-ce que vous espérez pour un futur rapproché?
Rapproché, je dirais une bonne météo ce printemps, pas trop de pluie. Ça serait déjà pas mal bien pour avancer la construction.
Ouais, je dirais que ça pourrait être un doux printemps.
Et un petit conseil à donner aux agriculteurs en herbe?
Ne semez pas trop tôt.
Parce que ça s'étiole et puis finalement, c'est presque comme les arbres. On a appris que t'es mieux de planter un petit pommier jeune que d'en planter un de 5 ans en croyant que tu as gagné du temps, parce que le petit va s'adapter beaucoup plus vite au sol, puis il va rattraper.
C'est vrai pour les petits plants aussi. Être patient, être confiant.
Puis d'être content de ta journée.
Merci
beaucoup,
Michel.
Et merci à tous ceux qui croient en nous.
Merci à Anne-Sophie Devanne et Roberto Chevary de la ferme maraîchère Les Champs Marins. Merci à vous d'avoir été là. Ici Michel Landry, qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre histoire.